Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine à tous, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous attendons vos réactions sur la personnalité de Donald Trump. Quelle image vous renvoie le président américain? En tout cas, dans un livre explosif à paraître demain aux États-Unis, le journaliste d'investigation Bob Woodward affirme que son entourage le considère comme un danger pour la sécurité du pays. Ses collaborateurs le décrivent comme un président instable, colérique et paranoïaque. Par ailleurs, on vous en a longuement parlé également sur l'antenne de RFI, dans une tribune anonyme rédigée par un membre de son administration et publiée mercredi dans le New York Times, on y apprend que des manœuvres sont mises en place par les plus proches conseillers du président pour éviter les incidents diplomatiques. Alors êtes-vous surpris par ces révélations? Quelle image vous renvoie finalement le président américain? On a envie de vous entendre. Nous vous donnerons la parole dans une trentaine de minutes. D'ici là, vous continuez évidemment à nous rejoindre ici à Paris au standard 33 9 693 693-70. Je lirai, comme tous les matins, quelques-unes des réactions postées sur la page Facebook de l'émission, des réactions qui permettront évidemment d'alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions sur l'actualité, vos questions pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons sur l'antenne de RFI dans nos différents journaux. Le premier auditeur de la semaine nous appelle de Bamako. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue, vous avez des questions sur la dépénalisation de l'homosexualité en Inde.
Effectivement. La semaine passée, la Cour suprême indienne a pris une décision dépénalisant l'homosexualité. Qu'est-ce qui a amené la Cour suprême à prendre cette décision? Une partie de la population indienne considère l'homosexualité comme une maladie mentale. Est-ce que la situation des personnes LGBT peut-elle réellement évoluer grâce à cette décision?
Oui, le plus difficile peut-être reste à faire pour les homosexuels en Inde. On a pu entendre ici et là, évidemment, la joie des différentes associations, mais qui affirment effectivement qu'il va falloir maintenant lutter contre les idées reçues. Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Courrier International, enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'Inde. C'est à l'unanimité que les cinq juges de la Cour suprême ont donc déclaré discriminatoire et inconstitutionnel cet article du Code pénal qui datait, rappelons-le, de la période coloniale britannique et qui interdisait les rapports sexuels entre personnes de même sexe. Comment expliquer le jugement, disons-le, historique de la Cour suprême?
Oui, alors Mohamed à Bamako pose des très bonnes questions. Ça peut surprendre effectivement quand on ne connaît pas la situation en Inde que la Cour suprême ait pris cette décision historique parce que on a cette image très homophobe et conservatrice de l'Inde. Et c'est une image qui n'est pas complètement fausse en réalité. Alors il y a eu effectivement des événements déclencheurs. Cette décision est le fruit d'une très longue bataille devant les tribunaux. Il y a de nombreuses associations qui se battent et puis il y a eu ces dernières années des gens qui à titre individuel ont saisi les tribunaux pour faire tomber cet article 377 du Code pénal qui pénalise, je cite, les rapports contre nature. C'est-à-dire, c'était une façon victorienne de parler de la sodomie. Donc c'est un article qui vise particulièrement les homosexuels hommes. Cette bataille judiciaire, elle n'est pas récente. Ça fait pratiquement 20 ans que ça dure. Et il y a des va-et-vient et des avancées. Par exemple, la Haute Cour de justice de Delhi avait appelé à dépénaliser l'article 377 en 2009, donc il y a quand même presque 10 ans. Oui. Et puis, il y avait eu un processus d'appel. Le gouvernement actuel, élu en 2014, qui est un gouvernement nationaliste hindou, particulièrement conservateur sur ces questions, avait été dans le sens contraire pour dire que non, on n'allait pas dépénaliser. Oui. Donc ce jugement est à la fois très attendu et logique d'un certain côté, puisque c'est l'aboutissement d'un processus très long, et en même temps digne d'être salué, parce qu'il est historique à plusieurs titres. il est historique parce que c'est une avancée dans les droits, c'est une façon aussi pour l'Inde de décolonialiser son arsenal judiciaire, bien qu'elle aurait pu le faire bien plus tôt, puisque l'Inde est indépendante depuis 71 ans. C'est historique parce que ça, les juges, dans leur jugement, le verdict fait en tout 495 pages.
Ah oui.
Et le texte est assez extraordinaire parce qu'il défend les droits de la minorité LGBT, bien sûr, le droit de chaque individu à aimer et à être aimé, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle. Et ce verdict dit que ce droit à l'amour est un droit fondamental, au-delà des lois, au-delà des décisions parlementaires. Donc c'est extrêmement important. Et ça concerne tous les LGBT, ça concerne tous les adultes, ça concerne toutes les minorités, parce que le verdict dit aussi que ce n'est pas à la majorité d'imposer sa vision de la morale. Mmh. Mais c'est là, qui est un pays démocratique, avec une constitution particulièrement ouverte, qui s'inspire d'ailleurs de la constitution française et américaine, de défendre les droits des plus faibles et des moins nombreux. Mmh. Et qu'une démocratie, ça n'est pas la dictature de la majorité, mais la protection des minorités. Donc c'est historique pour ça. Ouais. C'est historique aussi parce que ça pourrait faire jurisprudence pour d'autres pays anciennes colonies du Royaume-Uni, en Afrique de l'Est notamment.
Mmh. Oui, d'autant que rappelons que il y a encore 72 pays dans le monde où l'homosexualité est sévèrement punie. Alors ces juges qui, à l'unanimité, ont dénoncé cet article 377, exigent par exemple du gouvernement des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des policiers, auprès des fonctionnaires. Il y a une volonté, en tout cas, de la part des juges, de lutter maintenant contre les idées reçues à l'encontre des homosexuels.
Oui, et ça va prendre du temps. C'est une très bonne chose qu'ils se soient exprimés en ce sens, mais bon, ça ne va pas évoluer tout de suite. Et puis le gouvernement actuel est quand même particulièrement réactionnaire. Les hommes et les femmes politiques se sont retenus dans les premiers temps de s'exprimer, et puis finalement, tous les groupes proches du gouvernement actuel ont fait des déclarations particulièrement homophobes, notamment sur le mariage pour tous. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Disons que ça modère un petit peu la joie, et que ça fait présager des combats à venir. Enfin, ça modère pas la joie, mais ça laisse présager, voilà, des combats assez durs à venir.
Oui.
Il y a un vrai travail à faire sur l'homophobie, et plus généralement, sur le respect de toutes les minorités.
Et il va falloir également mettre à contribution les mouvements religieux qui sont fondamentalement opposés à l'homosexualité. Et c'est vrai que la bataille contre les idées reçues s'annonce comme la bataille judiciaire particulièrement longue en Inde. Merci beaucoup Ingrid Terwatt d'avoir été avec nous. Mohamed, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oui, très bien, merci à vous et merci à notre spécialiste.
Eh bien, bonne journée et on salue au passage le coq qu'on entendait sur l'antenne de RFI. Bonne journée à Bamako. Ingrid Terwatt, je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po et spécialiste de l'Inde. 10h18 à Paris, vos questions, vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Vous avez été nombreux, mais vraiment très nombreux, à nous poser des questions sur les récentes tournées africaines d'Angela Merkel et Theresa May. Alors, il y a une question qui est revenue très souvent. Agar va donc se faire le porte-parole de ces nombreux auditeurs. Agar, bonjour.
Bonjour, monsieur Rowan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de N'Djamena, vous nous avez contacté sur la page Facebook pour être très précis. Comme vous nous avez envoyé vos coordonnées, nous vous avons évidemment rappelé. Quelles sont vos questions?
Et effectivement, la semaine dernière, la première ministre britannique, Theresa May, a effectué une visite en Afrique dans plusieurs pays africains. Dans la même action, la chancelière allemande a effectué une visite en Afrique.
Alors, on vous entend très très mal, Agar. Avez-vous le combiné près de la bouche? Êtes-vous à l'extérieur? Je pense que oui. Alors, la semaine dernière, donc, Theresa May était en tournée, ça, on a bien compris, et il se trouve que cette tournée est intervenue au même moment que celle de la chancelière allemande Angela Merkel, et vous vouliez savoir s'il y avait un lien entre ces deux visites, c'est bien ça? Agar. Alors, que se passe-t-il? Alors bon, on va essayer de régler ça en antenne. En tout cas, votre question était bien celle que vous aviez postée sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Sophie Loussouarne.
Bonjour.
Désolé pour les réseaux téléphoniques. En tout cas, vous, on vous entend très bien. Vous êtes spécialiste de la politique et de l'économie britannique, maître de conférences à l'université de Picardie. La concomitance des tournées de Merkel et de Theresa May sur le continent africain, est-ce dû au hasard?
Non, ce n'est pas dû au hasard. Le Royaume-Uni est encore le principal investisseur en Afrique, loin devant l'Allemagne et derrière les États-Unis. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont de mauvais souvenirs de la colonisation en Afrique. Depuis la décolonisation, le Royaume-Uni a encouragé les exportations britanniques en Afrique, ce qui a été très bénéfique pour l'économie. Mais la Grande-Bretagne n'a pas aidé les pays africains à réduire leur dépendance vis-à-vis des produits britanniques. L'approche du Royaume-Uni est très différente de celle de l'Allemagne, qui investit dans l'industrie des pays africains. Et la chancelière Merkel a offert aux pays africains d'installer des usines et a scellé des accords avec le Ghana, que le Royaume-Uni considérait comme une colonie modèle. La chancelière implantera une usine d'assemblage Volkswagen au Ghana, après avoir installé des usines en Afrique du Sud, au Kenya, au Rwanda et au Nigeria. On voit bien que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont des puissances rivales en Afrique.
Oui, et tous les deux pays veulent tirer profit de la forte croissance économique dans des pays comme, vous les citiez à l'instant, le Nigeria, le Ghana. Aussi bien les Allemands que les Britanniques tentent de trouver des nouveaux débouchés pour leurs produits, pour leur industrie. Agar, vous aviez une autre question. J'espère que cette fois-ci, le réseau passera mieux.
Ah, j'ai une autre question. À l'approche du Brexit, les intérêts britanniques
Alors, le réseau téléphone se dégrade. Désolé, Agar, on vous avait pris, vous, pour représenter l'ensemble des auditeurs qui nous avaient posé ces questions. On n'a pas de chance avec les réseaux téléphones. Peut-on dire qu'à l'approche du Brexit, les intérêts de la Grande-Bretagne en Afrique sont en train de changer? C'est la question de notre auditeur, Sophie Louswarne.
Oui, alors l'Afrique constitue un enjeu crucial pour le Royaume-Uni et les relations avec le continent africain ont évolué depuis la décolonisation. Les liens britanniques avec l'Afrique sont étroits grâce au Commonwealth, qui constitue un pilier de la diplomatie britannique et l'un des trois cercles dont parlait Churchill dans son discours de l'an du Dodo. Le Royaume-Uni accueillera le sommet africain pour l'investissement en 2019 afin d'accroître sa visibilité face à la Chine, qui exporte aujourd'hui 8 fois plus que le Royaume-Uni en Afrique et qui investit dans la construction et les infrastructures. La visite de Theresa May en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria est perçue comme un moyen d'approfondir les liens économiques entre le Royaume-Uni et le continent africain. Le Premier ministre britannique a annoncé que le Royaume-Uni voulait devenir le plus gros investisseur du G7 en Afrique d'ici à 2022 et a promis une enveloppe de 4 milliards de livres.
Donc ça veut dire quoi, Sophie Louswarne, que le Brexit est une occasion pour la Grande-Bretagne de dépoussiérer sa coopération, ses relations avec le continent africain ?
Le continent africain ne va pas se substituer à l'Europe et à l'Union européenne. En fait, Theresa May s'inscrit dans la lignée du Premier ministre Tony Blair et du Premier ministre Gordon Brown, qui ont évoqué le potentiel de l'Afrique. L'aide apportée à l'Afrique est un outil diplomatique et un devoir moral d'apporter de l'aide aux régions les plus pauvres du monde. Mais l'Afrique est en pleine croissance économique et démographique et il a besoin d'aide en matière d'infrastructures. Et il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la classe politique britannique s'intéresse au continent africain, alors que c'était généralement la famille royale qui faisait des tournées dans les pays africains.
Oui, d'ailleurs, aucun Premier ministre britannique ne s'était déplacé en Afrique depuis 5 ans. On parlait du Kenya à l'instant. Au Kenya, c'était même une première depuis près de 30 ans. Merci beaucoup, Sophie Louswarne, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à Agar en ligne de N'Djamena. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique et de l'économie britannique. Il nous reste 5 minutes. On a pris le temps ce matin de répondre à vos questions. Demain, on essaiera de prendre évidemment plus d'auditeurs. 33 9 693 693 70. Nous rejoint Jean-Marie. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Belgorod. C'est à 700 km au sud de Moscou.
Oui, exactement.
On vous écoute.
Oui, Juan, en effet, il y a un journaliste néerlandais qui a publié un livre à la fin du mois d'août dernier, mettant en cause la société Heineken sur plusieurs affaires de corruption et surtout sa participation présumée au génocide du Rwanda en 1994. Oui, et Sur ça, j'avais trois petites questions à savoir. La première, celle de savoir quel est le degré réel de l'implication d'Heineken dans ces affaires.
Alors, on va répondre à toutes ces questions avec l'auteur de cet ouvrage, Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée publiée aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Olivier Van Bimen.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Rappelons qu'Heineken est le deuxième plus grand brasseur du monde et vous portez de graves accusations contre cette marque néerlandaise. Vous affirmez qu'elle est prête à faire beaucoup de compromissions, corruption, soutien à certains régimes pour conquérir le marché africain. À l'instant, notre auditeur évoquait le génocide du Rwanda. Il élargissait même ses questions sur les différentes affaires, car il n'y a pas que le Rwanda. Vous parlez du Nigeria, de la République démocratique du Congo, vous parlez également du Burundi.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, si on parle du degré d'implication de cette firme dans ces affaires, moi je pense d'abord aux violations des droits de l'homme et possible complicité. Et là, il y a le pacte mondial des Nations Unies qui nous fournit en fait trois niveaux de complicité. Et Heineken est signataire de ce pacte qui consiste de 10 principes auxquels les entreprises devraient adhérer. Et donc il y a complicité tacite, complicité avantageuse et complicité directe. Et tacite, ça veut dire qu'on est au courant de son implication indirecte dans des violations commises par d'autres. Mmh. Et là, selon mes constats, c'était probablement le cas en RDC, dans l'est du Congo, où le mouvement M23 a demandé des péages au transport de Heineken, et Heineken a accepté de les payer, et donc a contribué à financer le M23. Mmh. Ensuite, il y a donc complicité avantageuse. L'entreprise bénéficie de violations qu'elle n'a pas commises elle-même. Et là, je pense que c'est le cas probablement toujours au Congo, où Heineken a conclu un accord avec le RCD. C'était un mouvement très violent autour de... Oui, c'était pendant la guerre de 98 jusqu'en 2003. Et Heineken a conclu un accord avec ce groupe qui stipulait que Heineken faisait tout pour maximaliser les revenus fiscaux de ce groupe. Et au lieu de, en échange, Heineken pouvait licencier un très grand groupe de travailleurs de son entreprise. Donc là, je pense qu'il s'agit d'une complicité avantageuse. Et si on parle du Rwanda, il faut savoir que Heineken a continué à produire de la bière tout au long du génocide au Rwanda. Et que cette bière servait à motiver, à récompenser les tueurs. Heineken a continué à payer des taxes aussi au régime génocidaire. Et donc Heineken a fait des affaires pendant ce génocide. Et je pense qu'on peut probablement argumenter que là, il s'agit d'une complicité directe.
Alors, vous parlez de complicité directe, Olivier Van Bimen. En même temps, il se trouve qu'effectivement, les milices Hutu était ivre, la bière servait comme une motivation, servait de motivation pendant les tueries, elle servait même de récompense après. Vous pensez quoi, qu'Heineken aurait dû stopper la production de bière à ce moment-là?
Oui, je pense que ça aurait été la réaction normale. Il y a une porte-parole de l'époque qui avait répondu à cette question. Pour nous, c'est pas un problème. Il y a de la demande, il y a de l'offre. Et il y a une autre source auquel j'ai parlé au Rwanda qui m'a dit oui, il faut savoir, Heineken n'est pas la Croix-Rouge. Donc il n'y avait aucune motivation de la part de Heineken et de sa filiale rwandaise d'arrêter cette production. Ils ne l'ont pas essayé.
En tout cas, Heineken affirme qu'à l'époque, donc en 94, la brasserie rwandaise était devenue hors de contrôle et Heineken se dit extrêmement choqué que son nom soit associé au génocide des Tutsis. Un drame absolu, poursuit le communiqué de ce grand brasseur néerlandais. Merci beaucoup Olivier Van Bimen d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ouvrage Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, vous continuez à nous appeler ici au standard 33 9 693 693 70. On va revenir dans 10 minutes et on parlera tous ensemble de la personnalité de Donald Trump.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.